France Info. France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils sont venus malgré cette grande interrogation qui plane sur nos sociétés actuellement. Mais quel sera le tube de l'été, hein, à peine remis de Despacito? C'est vrai qu'on peut se poser la question et on espère avoir une réponse très rapide. En tout cas, merci à eux d'être venus. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent l'économiste Robin Rivaton. Bonsoir.
Bonsoir.
Également Pouria Amirsaï. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien député socialiste, chroniqueur à Politis. Stéphane Vernet, bonsoir.
Bonsoir.
De West France et François Lorcival, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
De Valeurs Actuelles. Et ce soir, on parlera de Emmanuel Macron a-t-il mis KO la contestation sociale. On parlera également des migrants. L'Italie durcit le ton. Mais juste avant, nous allons parler d'une petite chose, voilà, qui pourrait éventuellement nous intéresser, oh, très légèrement, à savoir la réforme de l'audiovisuel. Et pour en parler ce soir, nous recevons la journaliste et ancienne membre du CSA, Christine Kelly. Bonsoir.
Bonsoir, Jean-Mathieu.
Alors, autant vous dire que depuis quelques jours, quand vous croisiez un directeur d'antenne de Radio France, c'était toujours le même dialogue. Quand vous lui disiez bonjour, il vous répondait tout de suite, non, mais il n'y aura pas d'économie, pourquoi? Non, mais je vous ai juste dit bonjour. Ah ouais, et combien ça coûte le bonjour? En tout cas, les premières annonces de la ministre de la Culture concernant l'audiovisuel public stressaient un peu tout le monde depuis ce matin, c'est le grand flou. Voilà, hein. Annonce de la disparition de France 4 de la TNT, réflexion sur France O, plus de programmes régionaux sur France 3, accentuer le numérique et plateforme sur la culture et le décryptage. Mais au fait, combien ça coûte et combien d'économies? Bon, est-ce vraiment important, hein? Christine Kelly, c'est vrai que on a l'impression, quand on regarde depuis un an toutes les réformes faites par ce gouvernement, de nouveau, quand on y est confronté, on se dit, en effet, c'est flou, comme toujours.
Oui, c'est flou. Et parce que je pense que le gouvernement s'est rendu compte que finalement, le dossier de l'audiovisuel public est un dossier hautement politique. Premièrement, on se dit, oui, on dépense trop, il faut faire des économies. Enfin, moi, en tant qu'ancien membre du CSA, on est très conscient qu'il faut faire des économies. Effectivement, dans l'audiovisuel public, c'est clair. Après, comment est-ce qu'on va faire les économies? Quels sont les moyens qu'on va mettre en œuvre pour faire des économies? Vous savez, il y a eu toutes sortes de missions au cabinet de Françoise Nyssen, avec Olivier Courson à Matignon, avec Gabriel Attal, avec Aurore Berger, justement pour avancer sur l'audiovisuel public. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit quelques réformes, oui, mais que des réformes. Et justement, vous avez bien souligné que au niveau économique, on n'en a pas parlé, on parle du côté politique, pour faire passer ensuite la réforme au niveau économique. Là, ce qui a été annoncé, c'est effectivement la suppression de France 4, on va sur le net, on va chercher des jeunes, etc. C'est sûr, mais on se rend compte qu'on va encore créer aussi un certain comité pour pouvoir prendre le temps. C'est encore reporté en 2019, parce que ça prend du temps et c'est un dossier touchy, si vous permettez
touchy,
l'expression.
Touchy, oui, c'est ça. Pourquoi, d'après vous, Christine Kelly, la ministre ne parle pas des économies? C'est vrai qu'on serait fixé, finalement, dès le départ,
tout de suite, ça va crisper. On a vu qu'il y a déjà à peu près un an et demi, on a commencé à parler des économies. Tout de suite, il y a eu crispation. Tout de suite, même il y a eu un lobbying auprès des députés en train de dire, mais attention, c'est l'audiovisuel public. Donc, il y a eu des crispations. On a vu que même au sein de ceux qui soutiennent le gouvernement La République En Marche, tout le monde n'était pas justement pour les économies. Mmh. Donc là, on essaie de noyer le poisson. On essaie d'accoucher d'une petite souris, pas trop petite quand même, en faisant des annonces comme la suppression de France 24 ou la transformation de France 4. Toujours est-il que les économies et les mots qui fâchent, on essaie de les mettre de côté.
Pouria Amirsaï, qu'est-ce que vous pensez justement de ça, cette manière de faire? C'est-à-dire qu'on le voit, hein, d'ailleurs, c'est un peu la même chose, que ce soit la réforme de la SNCF, que ce soit sur le code du travail, c'est un petit peu toujours la même chose, cette manière de faire du gouvernement.
Bah, il a ses idées, il avance et il tient pas beaucoup compte du dialogue général préalable. Même Laurent Berger de la CFDT le dit, pour ce qui concerne son secteur, c'est-à-dire le champ du dialogue social en général. Je n'ai pas regardé, à vrai dire, la méthode. Ce qui m'intéresse, c'est le contenu. Parce que la grande révolution à faire pour l'audiovisuel public, c'est d'abord une révolution de contenu. Ce qui se joue, c'est la qualité. Ce qui se joue, c'est la qualité de... d'abord, c'est la liberté de la parole, la diversité des opinions. Deuxièmement, c'est la qualité de l'information, c'est la transmission de l'information. Une forme d'éducation, de pédagogie, d'éducation populaire, c'est ça, ouais, l'enjeu. Je crois qu'il y a un taux de pénétration de 94% quand même de la télévision dans les foyers, donc c'est pas rien, c'est un enjeu démocratique réel. Peut-être que c'est ça qui se joue avant même de s'interroger sur les réformes à faire. À la fin, on ne sait même plus pourquoi il faut faire des réformes. On nous invoque le mot de réforme. Ça n'a plus aucun sens. Ça vaut d'ailleurs dans ce domaine comme dans bien d'autres, comme si clamer la réforme faisait de celui ou de celle qui le clame, quelqu'un de moderne. En vérité, nos sociétés démocratiques sont confrontées à des enjeux redoutables en matière d'information. D'un côté, le buzz tel que on le voit tous les jours, l'exagération, la fausse nouvelle, les réseaux sociaux qui décuplent ce sentiment d'une insécurité de l'information. Et de l'autre côté, une presse entre les mains de quelques milliardaires. Donc, l'espace démocratique que couvre ou que rend possible en tout cas l'audiovisuel public par son organisation, elle est déterminante s'il y a une vraie interrogation politique et démocratique sur le contenu de l'information. Et de ce point de vue-là, on a des exemples étrangers. On parle souvent de la BBC, on peut parler aussi de quelques chaînes au Canada, mais aussi on a une référence française ou franco-allemande, il y a Arte, il y a France Culture pour ce qui est de la radio, parce qu'on parle beaucoup de la télévision, mais l'audiovisuel, mais oui, c'est aussi la radio.
Bien sûr, oui, oui.
Il y a de la qualité, il y a des chaînes dans lesquelles il y a une diversité, on pense à France Culture, des opinions, dans d'autres moins. Tout ça devrait se penser et devrait être un peu plus démocratique. Et je renvoie, pardon, sur votre question première, la méthode, on devrait peut-être commencer par interroger les usagers, interroger les gens et peut-être solliciter de plus en plus l'opinion. Les relais associatifs qui existent, qui s'interrogent et qui interrogent
de plus en plus. C'est ce qui devrait être fait notamment à Radio France. Mais une chose, Christine Kelly, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression, on n'a pas entendu aujourd'hui. On parle, en fait, en gros, on parle davantage d'économie que de vraie réflexion sur ce que doit être un service public audiovisuel. On ne sait pas, on ne connaît pas cette vision du gouvernement et même d'Emmanuel Macron dessus.
Oui, et puis j'irais même plus loin. Effectivement, c'est ce qu'il a souligné, le service public audiovisuel, mais aussi regarder le comportement du téléspectateur. Est-ce que le téléspectateur ou l'auditeur, il existe aujourd'hui? Oui, mais quel est son comportement? Son comportement aujourd'hui, la moyenne d'âge du téléspectateur en 2017 est de 52 ans. Où sont les jeunes? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils regardent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Voilà où on doit s'adapter aujourd'hui. Effectivement, ce qu'il a dit tout à l'heure est très juste. Il faut avoir une information, une véritable information. Ce qu'on trouve de plus en plus difficilement aujourd'hui, une information vérifiée, contrôlée, pédagogique, didactique, c'est ce que doit faire effectivement l'audiovisuel public. Mais aujourd'hui, il faut aussi aller sur le numérique et se rendre compte, nettoyer la législation française, nettoyer la loi de 86 qui régit tout l'audiovisuel, puisqu'aujourd'hui, notre service public audiovisuel et même notre télévision française et notre radio n'est plus compétitive. Pourquoi ? Parce qu'on a une puissance du net, du numérique qui va beaucoup plus vite, parce que c'est là où ça se passe maintenant. Il n'y a aucune sanction, aucune règle, et c'est là où on est sur les YouTube, on est sur YouTube, etc. Aujourd'hui, on a même des chaînes qui vont payer des youtubeurs pour que le téléspectateur puisse regarder leur chaîne. Voilà la réalité de la télévision française aujourd'hui. Ne faisons pas la politique de l'autruche pour faire croire qu'on regarde la télévision aujourd'hui comme avant.
Alors on va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h10, Stéphane Milhomme.
La Société Générale va payer plus d'un milliard d'euros pour régler deux litiges, 250 millions rien qu'en France, pour des soupçons de transactions illicites avec le fonds de soutien libyen. Si l'accord est accepté demain par le parquet national financier, le reste à verser aux États-Unis dans le cadre d'un litige relatif au taux interbancaire Libor. Pas de Big Bang annoncé dans l'audiovisuel public, mais une chaîne en moins, ce sera France 4. En présentant les grandes lignes de sa réforme, la ministre de la Culture a prôné ce matin, un triplement des programmes régionaux de France 3 avec une collaboration accrue avec le réseau France Bleu. Plus de synergie entre radio et télévision publique. La réforme de Françoise Nyssen permettrait jusqu'à 500 millions d'euros d'économies d'ici 2022. Au Guatemala, le bilan passe ce soir à 33 morts et 46 blessés après l'éruption du volcan Fuego d'une altitude de 3700 mètres. Il est situé à 35 km de la capitale. Cette éruption a déjà nécessité l'évacuation de plus de 4500 habitants. Et toujours ces risques d'orage sur la France ce soir, avec 17 départements placés en vigilance orange par Météo France sur la partie sur une partie de la Bretagne et de la Normandie, également du nord de la Bourgogne et jusqu'au Grand Est. Des mesures préventives jusqu'à demain 6h. Et puis Lufthansa retire une publicité pour le Mondial en Russie parce qu'elle avait été tournée en Ukraine. La compagnie aérienne allemande a dû présenter ses excuses et dit avoir lancé cette réalisation dans ce pays pour des raisons logistiques, alors que l'Ukraine est en conflit avec la Russie.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Françoise Nyssen, ministre de la Culture, a présenté les premières pistes de la réforme de l'audiovisuel. Alors, on parle pas d'argent, pas encore. Peut-être ça viendra le 15 août, peut-être, on ne sait pas. On verra quand tout le monde écoute bien et très attentif aux informations. François Orcival, pourquoi c'est un sujet si politique?
C'est très politique, pour les raisons d'ailleurs que Christine Kelly a exposées tout à l'heure. Et je dois dire que dans ce domaine, j'ai suivi ce que disait Pourriat il y a un instant, vous êtes dans le vrai et en même temps, je vous trouve très angélique. Parce que politique, ça veut dire quoi? Quel est l'avenir de Delphine Ernotte à la tête du groupe France Télévisions?
Oui.
Ça, nous ne le savons pas, et probablement c'est ce qui se joue en ce moment. Ça, c'est très politique. Deuxièmement, c'est très politique. Oui, les économistes, c'est-à-dire un chiffre. Alors, le chiffre, il varie entre 250 et 500 millions. Il faut savoir que ça s'applique à 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires du groupe France Télévisions avec 10 000 salariés.
Alors, ce n'est pas que France Télévisions qui est fait sur les 200 millions demandés, c'est l'audiovisuel public, c'est-à-dire Radio France, France Télévisions, France Média Monde. Voilà, non, mais on est.
Oui, alors ça ajoute un milliard à peu près.
Ah oui, c'est pas négligeable.
Donc, ça veut dire que c'est quand même 10% du chiffre d'affaires. Donc, c'est très lourd, c'est très gros, et c'est pour ça qu'évidemment, c'est une bataille politique très, très intense.
Oui, Robert Rivaton, c'est politique plus qu'économique, finalement, ce qui se joue, parce que c'est un média, c'est des médias, on parle de médias là.
La question du service public mérite d'être interrogée quand même, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas que de l'information sur France 2 ou France 3, il y a des émissions de divertissement, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas trait à une case que vient combler le service public au titre de l'absence de contenu de cette qualité produit par d'autres sources privées. On parlait des youtubeurs, l'explosion des contenus a été telle sur plein de choses, sur les divertissements, sur la capacité à informer, sur plein de d'objets de la vie quotidienne, et le service public sur la partie information, c'est qu'une toute petite partie de la chaîne, et le reste de la chaîne essaye de faire des activités qui sont liées ou en concurrence directement avec l'activité privée, jusqu'à preuve du contraire. Quand on produit une émission de divertissement qui est produite par un producteur privé qui est rémunéré par de la publicité derrière, on n'est pas sur du service public, on est sur quelque chose qui est en concurrence avec une activité privée. Donc la question aujourd'hui pour les chaînes du service public, c'est de se demander en quoi elles viennent compléter ou combler un manque dans l'offre de contenu qui, on l'a dit, a explosé. Elle n'a pas explosé parce qu'elle a explosé pour deux raisons. Les gens sont en capacité de produire plus d'offres, le niveau éducatif de la société a beaucoup progressé ces dernières années, et les gens ont envie de voir des choses qu'ils ne voient pas aujourd'hui sur les chaînes du service public. Ils ont envie de voir les séries qui sont payées à prix d'or par les scénaristes américains. Ils ont envie de voir des informations qui sont faites par des youtubeurs qui ont leur même âge, qui partagent le même un sentiment de communauté. Et ça, malheureusement, vouloir lutter contre ça, je ne pense pas que ce soit la mission de l'État.
Christine Kelly, c'est quand Françoise Nyssen dit dans Le Monde aujourd'hui, nous sommes au prologue d'une révolution profonde. Véritablement, vous pensez, quand elle dit ça, est-ce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, justement, comme disait Robert Rivaton, c'est par rapport, on va dire clairement, par rapport à Netflix, voilà.
Non, mais
c'est
si
ça.
Vous permettez l'expression, pour moi, ça ne veut rien dire. C'est quoi la révolution profonde? La révolution profonde, elle est en marche depuis bien longtemps dans l'audiovisuel. Nous, on fait, encore une fois, on ferme les yeux, on fait comme si de rien n'était. Et comme vous venez de dire, on essaie de voir comme si ça va passer. Exemple de Uber, exemple de Amazon et des librairies, exemple des GAFA. Ensuite, on va se réveiller quand ça sera trop tard. Mais la révolution profonde, elle a lieu depuis longtemps. Et c'est pas avec la suppression et la transformation de France 4 qu'on va faire face à cette révolution profonde. Je pense qu'en revanche, le président de la République, il a une vision beaucoup plus large, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus vraie, justement, de la réalité du paysage audiovisuel français. Du paysage audiovisuel français. Et là, il y a encore des choses à... Il faut qu'il mette tout ce qu'il pense vraiment sur la table.
Une dernière chose, Christine Kelly, après je vous libère. Est-ce qu'après cette réforme, le service public audiovisuel ne sera plus la honte de la République, d'après vous?
Alors, je pense que c'était un petit peu exagéré. Ouais. Effectivement, la honte de la République, je pense que c'était un peu exagéré. Après, que l'audiovisuel public doit faire des efforts, oui. Que le service privé aussi doit faire des efforts, oui. Après, que le législateur doit faire des efforts, oui. Et ça, c'est important. Il faut, et je n'arrête pas de le dire, que le législateur français puisse se permettre de toiletter les textes pour rendre nos programmes dynamique, exportable, exploitable à l'étranger. On ne peut plus se permettre d'être en concurrence avec Netflix. On ne peut plus se contenter d'exporter uniquement nos dessins animés de France Télévisions. On ne peut plus se permettre de ne pas pouvoir exporter à peine quelques fictions françaises. On a besoin de toiletter l'audiovisuel français pour le rendre compétitif au niveau international.
Eh ben, on verra ça en tout cas. Si vous êtes entendu, Christine Kelly, c'est à suivre en tout cas bien sûr pendant l'automne. Et nous, ben, on va essayer de vous tenir au courant hein, quand même de cette chose. Merci beaucoup, Christine Kelly, d'être passée ce soir aux informés de France Info. Samedi soir, au large de Sfax en Tunisie, 47 personnes se sont noyées, 68 ont pu être secourues. Une nouvelle fois, nous nous faisons les comptables hein, de l'horreur de cette mer Méditerranée devenue un lacet pourtant de migrants. Parfois oubliés de l'actualité, la situation de ces femmes et de ces hommes nous reviennent comme une claque, et notamment depuis la création de cette coalition en Italie, entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue. D'ailleurs, le chef de file du mouvement d'extrême droite, devenu ministre de l'Intérieur, s'est rendu ce week-end en Sicile, une des régions en première ligne dans l'accueil des réfugiés. Et pour Matteo Salvini, désormais, la ligne est claire.
C'est une priorité pour ce pays de faire en sorte que pour les migrants et pour les clandestins, on dépense moins d'argent et de temps. Pour les migrants clandestins, le bon temps est terminé. Préparez les valises de manière éduquée et sereine.
Voilà Matteo Salvini, donc le nouveau ministre de l'Intérieur en Italie. Stéphane Vernet, ce mot « préparer les valises », très dur, très violent. Est-ce que cette ligne, elle peut être dangereuse pour le reste de l'Europe ?
Oui, elle peut être dangereuse pour le reste de l'Europe. Après, moi, j'attire votre attention sur le fait que c'est un discours qui s'adresse à la fois, il s'adresse à la fois à ses électeurs, donc il soigne son électorat, et il s'adresse aussi aux candidats à la migration. C'est-à-dire que vous avez les deux aspects dans ce type de déclarations, qui sont des déclarations fracassantes, très choquantes. Il promet des choses qu'il pourra pas tenir, parce que il y a ce qu'il oublie de dire, Monsieur Salvini, c'est qu'en fait le nombre de migrants qui sont entrés en Italie l'année dernière a fortement baissé par rapport à 2016, et que ils sont sur un rythme de 6500 expulsions aujourd'hui, et que augmenter considérablement le nombre d'expulsions tel qu'il le demande coûtera très cher, et que c'est pas toujours possible, parce que l'Italie, comme la France, c'est un état de droit. Comme l'ensemble de l'Europe, vous pouvez pas non plus créer des apatrides, ça se fait pas comme
bien
ça
sûr,
en fait.
Ouais.
Mais on est dans la gesticulation, on est dans un message fort, il soigne son électorat, et il y a aussi la volonté de dissuader tout un tas de candidats à la migration en leur disant non, on va durcir notre attitude, on sera intraitable, vous serez mal accueillis, etc. Et à certains égards, et moi il me semble que l'attitude du gouvernement français et le discours qui peut être porté sur un certain nombre de points ressemble, on suit à peu près la même stratégie. La vraie question, c'est est-ce qu'elle peut fonctionner ou pas?
Alors, on se souvient d'ailleurs du Danemark pour Yann Moussaï. C'est vrai que quand vous entendez ça, il y avait aussi le Danemark, on se souvient, qui avait laissé paraître dans la presse, ne venez pas chez nous parce qu'il peut vous arriver ça, voilà, ça peut être violent pour vous. Quand vous entendez ce genre de propos, qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, c'est des propos qui sont indignes d'un ministre d'un pays démocratique, fondateur de l'Union européenne, avec le socle de valeurs qui tiennent cette Europe. Mais au fond, bon, d'abord, ils viennent sans valise. Mais passons l'expression malheureux, ça c'est de la formule choc. Et je ne veux pas rentrer dans la polémique, simplement, ce qu'il dit est dit par beaucoup de ministres européens. Qu'est-ce qu'il dit ? Vous n'êtes pas les bienvenus. Mais c'est ce que dit le gouvernement français aujourd'hui. Vous n'êtes pas les bienvenus. Ne venez pas. Contrairement à tout ce qui avait été dit à l'époque où Angela Merkel était portée au nu par les uns les autres, expliquant qu'il fallait accueillir, etc. Donc, c'est le même discours partout en Europe. Et c'est très inquiétant. D'autant que ce qui arrive à l'Italie aujourd'hui est aussi de la responsabilité des pays,
oui,
des autres pays européens,
c'est ça,
et de la France.
L'Europe n'a pas assez aidé l'Italie.
Bah, oui, à partir du moment où on a mis en place le phénomène des Dublinés, non seulement ils arrivent par les portes d'entrée principales que sont la Grèce et l'Italie, mais en plus, lorsque on le voit à Vintimille, à la frontière franco-italienne, les policiers français font, pardon de le dire, la sale besogne qui consiste par petits groupes en plus à aller les ramener de l'autre côté. Les Italiens se retrouvent évidemment pris très facilement dans le discours xénophobe qui dit ils viennent de la Libye ou de l'Afrique, on nous les renvoie de France, etc. Et dans cette affaire-là, ni le destin de ces femmes et des hommes qui viennent de l'autre côté pour des raisons qui nous concernent aussi.
Bien sûr, on va
la situation Libye, la géopolitique européenne dans le sud, dans le Nord-Afrique, et évidemment les politiques insupportables, en tout cas intenables, parce qu'elles sont en plus irréalistes que mènent les Européens, notamment en matière de Dublin. Et on l'a vu notamment dans l'évacuation des camps. Vous avez vu l'évacuation des camps. C'est la 34e.
On en parle de ça. Alors on va en parler dans un instant. On va même entendre un son. L'info à 20h21. C'est Stéphane Milhomme.
15 projets agricoles validés à Notre-Dame-des-Landes. L'État signe aujourd'hui des conventions d'occupation précaire sur des sols dans ce secteur de Loire-Atlantique. Des projets agricoles portés par des zadistes sur une surface de 140 hectares, projets d'élevage, de maraîchage ou encore culture d'herbes aromatiques. 6 autres dossiers sont toujours à l'étude. D'autres informations concernant cette fois ces 3 grévistes de la faim de l'hôpital du Rouvray, toujours hospitalisés en urgence après 14 jours sans manger. Avec 7 autres personnes de cet établissement de Seine-Maritime, ces salariés tentent toujours d'obtenir la création de 52 postes dans des unités de soins. Le secrétaire général de l'Élysée visé par une enquête de soupçons de corruption, le parquet national financier veut savoir si Alexis Kohler a favorisé un armateur privé impliqué dans des discussions avec l'État. Un armateur auquel il aurait été étroitement lié. L'Élysée parle de soupçons totalement infondés. Et puis le Sud-Africain Daryl Impé remporte la première étape du Dauphiné. Les coureurs du Critérium arrivés ce soir dans la Loire à Saint-Just-Saint-Rambert. Le Polonais Kwiatkowski conserve le maillot jaune de leader.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons des migrants. Ce week-end, il y a une déclaration assez sulfureuse du nouveau ministre de l'Intérieur, le chef de la Ligue en Italie, à propos des migrants qui devaient faire leur valise maintenant qu'ils étaient au pouvoir. Également à Paris ce matin, 2 camps donc de réfugiés ont été également démantelés par la police et les associations. François Orcival, aujourd'hui, on est clairement dans cette ambiance-là de dissuasion par rapport aux migrants. Ça veut dire presque une opération de communication quand on entend aussi le ministre de l'Intérieur qui parle d'un benchmarking, voilà.
Oui, bien sûr, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que le message, Stéphane l'a dit tout à l'heure, s'adresse effectivement aux trafiquants, aux passeurs, à tous ceux qui font payer aux migrants la traversée de la Méditerranée et leur accès au territoire européen.
Le problème, c'est qu'on ne le dit pas comme ça aussi. C'est-à-dire que Gérard Collomb ne le dit pas comme ça. Il ne parle pas des passeurs. Il parle du benchmarking des migrants. On ne parle pas des passeurs.
Oui. Non, mais bien sûr. Mais c'est quand même ça que ça veut dire. De la même manière que le ministre de l'Intérieur italien, qui n'est autre que le patron de la Ligue, il faut se rappeler que c'était la Ligue du Nord.
Du Nord avant.
Et qu'aujourd'hui, il parle en Sicile. Ouais. Et pourquoi la Sicile? Parce que la Sicile est devenue, c'est vrai, il le dit, un immense camp de réfugiés. Et c'est là, quand vous parlez des Dublinés, que voulez-vous dire par Dublinés? Ça veut dire les migrants qui dépendent de cet accord de Dublin, qui va être en renégociation d'ailleurs, et qui fait que c'est le pays qui les accueille le premier qui est responsable de tout. Mmh. Et effectivement, les Italiens ne peuvent pas, ne veulent pas accepter ça. Alors le double langage, il est partout. Il est partout. Pour le moment, effectivement, c'est une chose nouvelle que d'entendre les Italiens dire cela. Mais il est partout. À Paris, Madame Hidalgo n'a pas cessé d'être, Madame Merkel, les bras ouverts. N'a pas cessé de dire, affirmons, notre solidarité, notre générosité avec les migrants. Tout en demandant au ministre de l'Intérieur, au préfet de police, de bien vouloir les évacuer parce que c'était indigne. Eh bien, cette situation est une situation extraordinairement dangereuse du point de vue politique en Europe.
Romain Yvaton, oui, c'est une question politique aussi, maintenant?
Bien sûr, c'est une question politique, mais il y a une nuance dans les propos de Salvini, je ne m'en ferai sûrement pas le défenseur, mais c'est une nuance qu'on retrouve dans beaucoup de gouvernements aujourd'hui, qui est la différence entre les immigrants illégaux et les immigrants, disons, légaux, et notamment ceux qui vont dépendre du statut de réfugié politique. Et il le dit dans ce qu'il a précisé, il a dit justement les immigrants illégaux. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui en France, effectivement, c'est une nuance qui a été portée autour du projet de loi asile, en disant effectivement tous les gens qui vont être dans une situation d'immigration illégale, donc en fait, donc ils ne vont pas bénéficier du statut de réfugié qui leur sera accordé par l'office qui le délivre. On va faire en sorte que cette réponse soit très rapide, comme ça, ça va faire en sorte qu'ils puissent retourner rapidement dans leur pays d'origine. Et c'est une nuance très importante qu'on entend aujourd'hui dans la bouche de l'ensemble des dirigeants européens, parce qu'elle fait écho à une partie de l'opinion publique. Du moins, il faut aussi arrêter de se voiler la face au bout d'un moment en disant que les politiques font des choses tout seuls dans leur coin. Ils font ça basé quand même sur une partie des sondages d'opinion et une partie de ce que renvoient les opinions publiques. En Italie, évidemment, on l'a vu, mais aussi en France. Vous avez parlé du Danemark qui a quand même aussi un gouvernement qui a une coalition d'extrême droite sur ces sujets-là. Et en Allemagne, la nuance qui a été introduite par Angela Merkel était justement de dire que ce sont des réfugiés qui sont des réfugiés et non pas des immigrants de type économique. Et elle a fait très distinctement la différence à ce titre-là plusieurs fois lors de ses meetings de campagne, par exemple, face à la CDU et la CSU.
Alors, Stéphane Vernet, quand on parle en effet, à l'instant, on en parlait de l'Europe, aujourd'hui, elle a une responsabilité aussi. C'est-à-dire sur ce qui se passe, ça veut dire de ne pas avoir été... On parle de l'Italie, mais il y a la Grèce également, hein, qui sont des centres d'entrée. Il y a une responsabilité de ne pas avoir assez aidé ces pays-là, en disant ça, ça a arrangé tout le monde.
Non, alors il y a des programmes, il y a des mesures, Frontex, enfin l'Europe n'a pas rien fait. Et le problème, si vous voulez, c'est, je pense qu'il faut le prendre dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron à plusieurs reprises, et sur ce point, je pense qu'il a parfaitement raison, c'est de dire que la problématique des migrations, c'est pas quelque chose qui peut être résolu à l'échelle d'un État, quel qu'il soit. C'est une problématique qui doit être prise à bras-le-corps par l'Union européenne et qui doit être traitée à l'échelle européenne. Ça veut peut-être dire plus de moyens, une nouvelle politique. Moi, je ne sais pas. Ce qu'on vient d'observer tous là, ensemble, présentement, c'est que à l'échelle européenne, il y a une même politique qui est en train de se mettre en place et qui consiste à dire on veut bien des réfugiés, des vrais, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui, qu'on reconnaît comme avoir des problèmes dans leur pays par rapport à la guerre, etc. Mais on veut plus des économiques. Le souci, c'est que est-ce que ça suffit ? Moi, je pense que c'est pas suffisant. Oui. Parce que c'est pas ça qui dissuadera les gens de traverser les frontières pour rejoindre l'Europe.
On aura encore, de toute façon, l'occasion d'en parler. Allez, parce qu'on est très, très en retard. Qu'est-ce qui se passe ce soir, début de semaine ? Les informés de France Info, on revient dans quelques minutes.
Et si travailler avec l'international devenait un jeu d'enfant ?
Tu sais qu'avec mon forfait Orange Pro, j'appelle en illimité vert et depuis toute l'Europe.
Ouais, et ben moi, avec mon forfait Orange Pro, je peux contacter mes fournisseurs au Brésil et en Russie.
Ah bah moi, grâce à tous mes gigas, je peux travailler sereinement avec mes clients aux States, hein ?
Ah ouais, tu parles anglais toi maintenant ?
Avec Orange, travaillez plus facilement avec l'international grâce à la gamme Performance Pro. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr.
Dernier volet du cycle de conférences France Inter, Bien vivre ensemble, animé par Ali Rebeilly et Christophe André.
Nous vous donnons rendez-vous demain à 20h pour apprendre à ralentir, à vraiment se déconnecter et moins stresser avant l'été.
2 heures d'échanges, de débats et de séances de méditation en pleine conscience.
La conférence Ralentir, en direct dans les salles de cinéma partout en France. Découvrez la liste des cinémas partenaires sur franceinter.fr et réservez dès maintenant vos places pour vivre cette expérience collective. France Inter, une radio de Radio France.
En partenariat avec la Massif.
Massif, essentiel pour moi.
France Info Météo, avec Aramis Auto, le spécialiste de la vente de voitures sur Internet. 2000 modèles et 30 marques à découvrir sur aramisauto.com et dans les agences Aramis Auto.
Et à Météo France, on retrouve Jean-Pierre Hameau.
Encore beaucoup d'orages ce soir. Ils seront toujours forts localement de la Bretagne à la Normandie et jusqu'en Île-de-France, de la Bourgogne à la Franche-Comté en remontant vers le sud de la Lorraine et de l'Alsace. Attention, les cumuls de pluie seront parfois importants. Ces orages vont perdre de leur activité au fil des heures. Demain matin, la situation s'annonce plus calme sous un ciel souvent nuageux. À noter de belles éclaircies dans le nord-est. Les orages reviendront en force dès la mi-journée dans la plupart des régions. Ils seront une nouvelle fois violents des Pays de Loire à la Bourgogne en passant par la région centre. De l'Auvergne à la région Rhône-Alpes et jusque vers l'Occitanie, les littoraux devront être épargnés, ainsi que la région Grand Est et les Hauts-de-France. Côté température, les minimales seront douces et comprises entre 12 et 18 degrés, les maximales entre 17 et 30 degrés, d'ouest en est.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Augustin Rivé, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Vous écoutez les informés sur la radio France Info, mais certains regardent cette même émission sur la chaîne de télé France Info. Et si ce genre de diffusion multi-support se développait, réforme de l'audiovisuel public sur les rails, Céline Bailly-Darcourt, les premiers détails ont été présentés ce matin par la ministre de la Culture, Françoise Nyssen.
La principale annonce, c'est la suppression d'une chaîne de télé. France 4 ne sera prochainement visible que sur Internet. Son canal hertzien, le 14, va donc être libéré, peut-être au profit de France Info Télé, ce qui lui donnerait une meilleure visibilité par rapport aux autres chaînes d'infos en continu. Autre volonté du gouvernement, redonner la parole au territoire, donc favoriser la proximité. Ça, c'est le rôle de France 3, qui va multiplier par 3 son nombre d'heures de programmes régionaux. Il n'y en a que 2 heures par jour actuellement. France 3 qui va par ailleurs tester des matinales communes avec France Bleu à la rentrée. Françoise Nyssen promet que les synergies entre les différentes entités de l'audiovisuel l'audiovisuel public vont se renforcer. Pas de sujet qui fâche, comme le montant des économies demandées à chaque groupe. Ça, on le saura plus tard. Ce qui est sûr, c'est que la ministre de la Culture a voulu jouer l'apaisement. Non, il n'y a pas d'échec de l'audiovisuel public. Un secteur qu'Emmanuel Macron aurait qualifié il y a quelques mois de « honte de la République ».
Céline Bailly-Darcourt, l'inquiétude des salariés des magasins d'IA, le groupe Carrefour qui souhaite s'en débarrasser, a présenté ce matin un plan de reprise. Mais il ne concerne qu'un magasin sur 10. Les syndicats accusent la direction de ne pas avoir voulu risquer de se créer une nouvelle concurrence. Une enquête préliminaire ouverte par le parquet national financier contre le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, soupçonné de conflit d'intérêts par la société Anticor. Elle lui reproche de siéger au conseil d'administration du constructeur naval STX, alors même que l'une des principales entreprises clientes d'STX appartiendrait à quelqu'un de sa famille. Soupçon que l'Élysée estime totalement infondé. La Société Générale accepte de verser plus d'un milliard d'euros pour éviter des procès en France et aux États-Unis. Ce marché doit encore être validé, mais il pourrait permettre à la banque de se dépêtrer de deux dossiers épineux. D'abord une histoire de transactions opaques avec la Libye, ensuite une affaire de possible manipulation financière sur le marché des devises. La Russe Maria Sharapova affrontera en quart de finale de Roland-Garros l'Espagnole Garbine Muguruza. La première n'a pas joué du tout son huitième de finale aujourd'hui. La seconde n'en a disputé que deux jeux. Mais dans les deux cas, les adversaires ont déclaré forfait sur blessure, abandon de l'américaine Serena Williams et de l'ukrainienne Lesia Tsurenko. La suite des informés, Jean-Mathieu Pernin, 20h33 sur France Info.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils volent direction la planète Actualité. Alors l'air est-elle respirable? Sûrement. Hein. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent l'économiste Robin Rivaton, Pouria Amirsaï, ancien député PS et également directeur politis, Stéphane Vernet de Ouest France et François Dorcival de Valeurs Actuelles. Oh ben non, le monde d'avant est revenu. Pff, oh là là, vraiment. L'association Anticor a déposé plainte au parquet national financier contre Alexis Kohler pour prise illégale d'intérêt, trafic d'influence et corruption passive. Alors, Alexis Kohler, si vous ne le connaissez pas, c'est le secrétaire général de l'Élysée. C'est vraiment l'homme de confiance d'Emmanuel Macron. Quand Emmanuel Macron se coupe le doigt, c'est Alexis Kohler qui saigne. Hein. Voilà, c'est comme ça. Il est l'homme vraiment de confiance et on lui reproche d'avoir accepté de siéger comme représentant de l'État au conseil d'administration de STX France à partir de 2010, alors que, je cite, il ne pouvait ignorer qu'il existait un conflit d'intérêt. En effet, l'armateur MSC ayant été fondée et dirigée par les cousins de sa mère. Voilà, c'est très compliqué. Donc, une plainte qui s'appuie sur des révélations, notamment de Mediapart. François Rossival, c'est embêtant pour le gouvernement ?
Non, ce qui est très, très amusant, c'est que ça vienne de Mediapart. Parce que qui est le directeur de Mediapart ? C'est Edoui Plenel, oui, qui avait été choisi comme intervieweur officiel par le président de la République.
Oui, bien sûr.
Donc, il prouve là son indépendance, sa liberté de tout. Hein.
Oui, oui. Bon,
d'accord. Ben, voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça... Effectivement, bon, on sait ce que le parquet national financier peut-être peut faire. On va voir. On va voir.
Alors, on ma est question, quand même dans des histoires de conflit d'intérêts.
Toutefois,
peut-être.
J'ai pas bien compris si le parquet national financier avait ouvert cette enquête préliminaire, qui ne signifie rien. C'est une enquête préliminaire.
C'est une enquête.
Avant ou après le dépôt de plainte de la fameuse association Anticor.
Après.
Voilà. C'est important parce que l'association Anticor, elle représente elle aussi un courant politique tout à fait prononcé.
Alors, l'Élysée a dénoncé, je cite, des soupçons infondés, mais est-ce que toujours ça entretient une suspicion sur ces conflits d'intérêts? C'est ça qui est intéressant, c'est aussi sur, sur ce monde politique, qui est aussi avec le monde de l'entreprise, qui a vraiment des rapports très proches.
Moi, je trouve ça très sain que dans une démocratie, et la justice et la presse fassent son travail. En l'occurrence, ce qui est reproché très concrètement, c'est à quelqu'un, Alexis Kohler, qui a été à Bercy directement en poste et qui était présent dans une réunion en février 2012. C'est ce que disent les éléments de l'enquête, entre guillemets, journalistique en tout cas, et aurait dans ce cadre-là participé, représentant l'État au sein de cette société, une délibération qui donne directement, qui autorise la vente d'un paquebot à la société à laquelle il appartenait par ailleurs. Je fais un bond de 3 ans et il se trouve que des années plus tard, il change de casquette et il se retrouve cette fois-ci dans une délégation d'armateurs, donc représentant la société à Bercy pour venir défendre les intérêts de cette même société. Manifestement, la qualification de conflit d'intérêt à minima est fondée, en tout cas, ouais. On peut en discuter. Et je trouve que c'est tout à fait sain que les associations comme Anticor veillent de près au comportement, à l'éthique et à la probité des élus. Des élus, en l'occurrence, ce n'est pas un élu, mais en tout cas des gens qui ont une parcelle de pouvoir politique entre les mains. C'est tout à fait normal. Et que les journalistes enquêtent, c'est pas moi qui veux dire le contraire. Ouais. C'est très bien.
Robert Yvaton, sur cette histoire de conflit d'intérêts, est-ce que vous trouvez que là, justement, il y a un conflit d'intérêts ou pas
J'en sais rien. C'est le métier de la justice. On paye nos magistrats pour
bien
ça.
Sûr.
Il y a une plainte qui a été déposée par cette association qui a le droit d'aller déposer des plaintes, comme nombre de nos concitoyens. La justice est là. La plainte, le dépôt de plainte est relayé par la presse. Très relayé, hein, on le voit bien. D'ailleurs, c'est toujours intéressant de voir comment certains dépôts de plainte sont plus relayés que d'autres. Mais bon, c'est ainsi. Il y a une transparence dans cet exercice. Le dépôt de plainte est... Donc, c'est pas à moi de me prononcer sur le fait qu'il y a un conflit d'intérêts. La justice se prononcera. Il y a des règles qui sont inscrites, des règles très précises. Aujourd'hui, je pense qu'on a atteint le maximum de la règle dans le conflit d'intérêts. On a une définition extrêmement extensive du conflit d'intérêts pour les hauts fonctionnaires comme pour les élus. Je pense qu'on peut difficilement aller plus loin. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut ouvrir très facilement des dépôts de plainte avec des liens qui peuvent parfois être très ténus entre les personnes qui sont impliquées ou les postes qui sont en jeu, ce qui pousse aussi parfois certaines personnes à ne pas pouvoir retravailler dans les secteurs ou dans lesquels ils ont évoqué. C'est tout cela est fait par la loi, et à partir de là il y a quelqu'un qui est le juge qui vérifie que la loi a été appliquée. Moi, je n'ai rien à dire là-dessus, et on verra bien ce que dira le juge.
Stéphane Vernet, voilà, est-ce que c'est tout de même par rapport à l'Élysée, par rapport à la personnalité d'Alexis Kohler, est-ce que c'est une affaire qui peut être embêtante même pour l'Élysée, c'est-à-dire même à traiter au niveau communication?
Oui, c'est embêtant, c'est très gênant, parce que Alexis Kohler, c'est un très 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 proche d'Emmanuel Macron, donc il fait vraiment partie du cercle très rapproché, et quelque part, on peut se dire aussi que cette histoire, la médiatisation... la médiatisation de cette histoire, elle vise au-delà d'Alexis Kohler, elle vise Emmanuel Macron. Moi, je pense que, si vous voulez, je souscris à ce qui vient d'être dit. C'est très important que la justice puisse faire son travail de manière indépendante. C'est très important que les journalistes puissent enquêter, sortir les affaires. Je trouve ça très, très bien. Après, il faut pas aller plus vite que la musique. Aujourd'hui, il y a eu une ouverture d'une enquête par le parquet national financier. Je pense qu'il est urgent d'attendre de voir quelles seront les conclusions de cette enquête avant de se prononcer. Parce que je trouve que, dans l'emballement médiatique, parce qu'il y a un vrai emballement médiatique depuis le dépôt de plainte et jusqu'à aujourd'hui, on entend des choses assez exceptionnelles. Moi, j'ai entendu aujourd'hui un des avocats d'Anticor dire que Alexis Kohler était un petit peu le Cahuzac d'Emmanuel Macron.
Et voilà.
Excusez-moi, mais je trouve ça très, très excessif.
C'est très grave et c'est très excessif.
Ça pose vraiment question, quoi. Alors après, qui est conflit d'intérêts, c'est à la justice de le déterminer. Mais moi, je vous rappelle que, en fait, Alexis Kohler, deux fois, a cherché à rejoindre MSC. Et il y a une commission de déontologie qui existe et qui lui a refusé la capacité de rejoindre MSC en 2014. Et qui lui a dit oui en 2016. Donc quand il dit qu'il a tout fait en transparence, j'ai plutôt tendance à croire qu'il a raison.
Juste un point sur la commission de déontologie. Cet avocat, excusez-moi, a une déontologie à respecter. Et comparer un cas précédent à une affaire en cours, c'est le contraire à la déontologie de sa profession d'avocat. Hein,
En tout cas, on va bien voir. En tout cas, ce qu'il en est maintenant, cette plainte, on va la laisser vivre sa vie. On est sûr qu'on en reparlera dans les informés de France Info. L'info à 20h40, Stéphane Milhomme.
PSA s'apprête à quitter l'Iran. Le constructeur automobile français annonce ce soir qu'il suspend progressivement ses activités pour se conformer à la loi américaine d'ici le mois d'août. Les États-Unis annonçaient le mois dernier qu'ils imposeraient de nouvelles sanctions à l'Iran et ses partenaires commerciaux après le retrait de Washington de l'accord sur le nucléaire. À travers plus de synergies entre radio et télé publique, la réforme de l'audiovisuel permettrait jusqu'à 500 millions d'euros d'économies d'ici 2022. La ministre de la Culture Françoise Nyssen a précisé ce matin ses intentions. La suppression de France 4 de la TNT vers un triplement des programmes régionaux de France 3 avec une collaboration accrue avec Radio France à travers France Bleu. Examen de cette loi courant 2019. Ce soir, minuit, dernier délai pour déclarer vos revenus sur Internet. C'est la date limite pour les contribuables des départements 50 à 974. Passé ce délai, vous risquez une pénalité de 10%. Plus aucun Français en simple à Roland-Garros. Conséquence de l'élimination
Express cet après-midi de Caroline Garcia par l'Allemande Kerber. Serena Williams blessée a déclaré forfait. Ça passe pour Rafael Nadal. L'Espagnol affrontera en quart de finale l'Argentin Schwartzmann. Et puis la ville de Paris aura pour la première fois un char dans le défilé de la Marche des Fiertés le 30 juin prochain, sur proposition du groupe écologiste. La municipalité entend traduire la visibilité de son engagement en faveur de l'égalité des droits 31 ans après la première Gay Pride de Paris.
France Info.
20h-21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Quand vous tapez dans un moteur de recherche signification du nombre 13, vous tombez sur un nombre de pages mais impressionnantes. Hein. On a même l'impression qu'Internet a été créé pour tenter d'expliquer pourquoi le chiffre 13 nous marque tant. De la malédiction du 13e poil de la barbe de Merlin à David Trezeguet, il y en a pour tous les goûts. Hein. On ne sait pas s'il porte bonheur ou malheur, mais il n'aura pas forcément porté chance aux grévistes de la SNCF. Le 13e jour de grève vient de s'achever et cela n'aura pas véritablement d'incidence sur le vote de la réforme ferroviaire demain au Sénat, qui devrait passer sans trop de soucis. Fin de partie pour les contestations, la convergence de lutte n'a pas pris, chaque feu de révolte semble s'éteindre et le passage en force apparaît désormais comme une marque de fabrique. Emmanuel Macron a-t-il tué le jeu de la colère sociale ? Pas de panique, il faut juste être tranquille, selon la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.
Le match, c'est pas contre les syndicats. On a besoin de syndicats dans ce pays. Le match, il est contre le déclin de la France. Et donc, on a commencé à gagner des premiers points. On n'est pas à la fin du tournoi. Hein.
Deuxième question, Macron est pressé de passer à la suite. Quelle suite ?
La rénovation du modèle social, qui est nécessaire pour que tout le monde puisse appréhender les défis qui arrivent avec confiance. On l'a commencé par le Code du travail, libérer les initiatives. Maintenant, on est sur le projet de loi. Après, il y aura ce que portera ma collègue Agnès Buzyn, les retraites. On n'a pas fini. Hein.
Voilà, Muriel Pénicaud, ce matin, donc sur CNews. Pour Yamiche, est-ce que la colère est passée de mode ?
Non, je crois pas, mais faut voir objectivement que les capacités de mobilisation, les ressorts du mouvement social sont plus difficiles qu'avant. Il faut dire aussi que l'absence d'écoute est plus forte que jamais. Elle vient de le dire, hein, d'ailleurs, la ministre, une volonté d'imposer l'agenda libéral et de le faire à marche forcée. C'est le cas, elle le dit elle-même, c'était le cas sur la loi travail en flexibilisant, en libéralisant encore plus le marché du travail. Elle le fait avec la SNCF en ayant fait croire que le seul enjeu c'était le statut des cheminots. Ce qui d'ailleurs en soi pose un problème, parce que si demain on ne recrute plus avec ce statut, on recrutera des gens moins motivés et vous verrez que ça jouera sur la qualité du service qui sera rendu. Elle annonce l'agenda de la même façon sur la question des retraites. Et on se doute qu'il ne va pas s'agir de bonnes nouvelles pour les personnes, les femmes et les hommes qui ont travaillé longtemps et qu'on va leur expliquer qu'il faut encore faire des efforts supplémentaires. Et l'assurance maladie, je n'en parle même pas.
Mais donc c'est un agenda libéral. Est-ce que depuis quelques temps, on voit tout de même des manifestations, des grèves moins importantes que cela a pu être auparavant ? C'est-à-dire quoi ? C'est moins de motivation, de la résignation ou de l'acceptation finalement aussi
Je pense qu'il y a une forme de résignation à voir des gouvernements passer en force, ne pas tenir compte ni de leur vote, ni même de leur mouvement de protestation. À la fin, c'est la démocratie qui le paye, parce que si on contourne les syndicats, si on fait fi d'une opinion qui, surtout en France, est attachée quand même à des protections collectives, et c'est normal, à bon droit, un jour ou l'autre, c'est une victoire à la Pyrrhus, on se retrouve roi d'un pays qui s'est lui-même abîmé, parce que rien ne prouve, encore une fois, si ce n'est le dogmatisme libéral, que ces réformes-là vont permettre à la France de, je cite, libérer les énergies, être compétitive ou je ne sais quoi.
Alors, oui. Robert Ribaton.
Pas que les SNCF,
je parle du reste. Ensemble, Robert Ribaton.
Est-ce qu'on peut juste se dire que les Français ont voté il y a un an pour un programme avec un homme qui a posé un certain nombre de programmes, de conditions dans son programme.
Pas la SNCF, qui sont prononcées... pas dans son programme.
Non, mais d'accord, mais l'orientation du programme était on ne peut plus clair. À un moment, on demande qu'il décrive précisément, jour par jour, le programme. À un moment, on dit qu'on fait des programmes de technocrates.
Mais la démocratie, il a envoyé... Si je peux me permettre, la démocratie, ce n'est pas simplement de dire on tient compte du programme. On tient compte aussi d'institutions, de corps intermédiaires. On dialogue, on écoute. D'ailleurs, la marque de fabrique de Emmanuel Macron, c'était d'expliquer quand même qu'il avait cette part de modernité qu'il ne respecte pas aujourd'hui, qui était le temps du dialogue, de l'écoute, l'horizontalité. Il est dans la verticalité absolue, ce qui, à mon avis, appauvrit une démocratie qui était déjà abîmée et atrophiée du fait même de la Ve République. Et il ne fait que rentrer dans les habits plutôt autoritaires, en l'occurrence, y compris en matière sociale.
Et ça semble satisfaire une bonne partie de la population, puisque cette population ne descend pas à faire de la contestation, comme vous l'avez vous-même souligné, et que ces contestations sont en baisse, non pas depuis Emmanuel Macron, mais elle est en baisse forte depuis longues années, longs quinquennats, parce que je pense qu'il y a une partie de la population, et on peut, et à longueur de journée, on entend sans dire que c'est pas le vrai, mais une partie de la population soutient l'idée qu'aujourd'hui quelque chose doit changer dans ce pays, que les politiques qui ont été suivies depuis plusieurs décennies ne sont pas des politiques ultralibérales, la dépense publique en France n'a cessé d'augmenter depuis 30 ans, et donc que les gens se disent qu'il y a peut-être autre chose à essayer, que d'autres pays l'ont fait avec succès, et ce ne sont pas des dictatures ultralibérales, je pense à la Suède par exemple, et donc les gens peuvent accepter et vouloir...
En Angleterre et dans d'autres pays.
Mais je parle pas d'Angleterre, je parle de la Suède.
Alors,
et
donc Suède,
les gens peuvent vouloir ces politiques-là, et le fait qu'ils n'aillent pas manifester montre qu'ils veulent ces politiques.
Stéphane Bernet, est-ce que ça veut dire, quand on voit en effet depuis un an les différentes réformes effectuées sans véritablement impact de la mobilisation sociale, est-ce que ça veut dire que les Français accordent donc un blanc-seing, finalement, au gouvernement ? Aujourd'hui.
Un blanc-seing, je ne dirais pas ça. Par contre, par rapport à ce qu'on vient de discuter, oui. Je pense qu'effectivement, il y a la question de savoir qui, est-ce que la majorité de la population approuve ou rejette. Moi, je pense qu'en fait, chez les Français, il y a toujours trois partis. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, et le parti majoritaire qui est ceux qui s'en tapent, c'est-à-dire les indifférents. C'est ce qu'on voit au niveau de l'abstention. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les gens qui descendent dans la rue, ils sont pas majoritaires. Il y a eu une tentative d'automne social qui s'est achevé le 23 septembre avec la grande manif pour le coup d'État social qui devait marquer un début de convergence des luttes. Ça n'a pas marché. Jean-Luc Mélenchon lui-même ensuite a accordé le point à Emmanuel Macron. Voilà. Le 26 mai, ça devait être une marée populaire. Ça marchait encore moins que le 23 septembre. Ouais. Édouard Philippe a même dit que c'était un petit coefficient de marée. Les marins comprendront. Ça peut signifier la fin du printemps social. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'a dit Édouard Philippe la semaine dernière au moment du séminaire de rentrée. En fait, il a dit deux choses. Il a dit « Juin permettra d'achever la réforme de la SNCF, de rendre Notre-Dame-des-Landes à sa vocation agricole. » Ça, c'était dans le...
C'est ça, on l'a entendu tout à l'heure.
Le flash info de tout à l'heure. « Et de réussir le lancement de Parcoursup. » S'ils réussissent ces trois points clés-là maintenant, je pense que le nouveau gouvernement va être tranquille sur le front social pendant un bon moment. Et la deuxième chose qu'il a dit, qui était intéressante et qui est, à mon avis, fondamentale, Édouard Philippe a ajouté « Le travail n'est pas terminé tant que les Français n'ont pas constaté de progrès concrets dans leur vie quotidienne. » Ouais. Il est là, le point clé. Il faut que ça change... Pour de vrai.
François de Rossival. Pas que dans les discours. Est-ce que ça veut dire, en effet, que peut-être que les Français sont pas mobilisés, mais on voit quand même aujourd'hui des colères qui existent, véritablement, encore. Et quand on parle, en effet, d'abstention qui sont peut-être manifestées par ce genre aussi de choses, est-ce que ça veut dire que là, ce genre de réformes vont permettre d'apaiser, finalement, une tension qu'il y a dans la société, ou au contraire?
C'est la fameuse transformation. Et ce qui est très, très intéressant, au fond, c'est que la cote de popularité du président de la République est à peu près égale tourne autour de 40%, c'est-à-dire qu'elle est négative d'une certaine façon. En revanche, les mêmes Français qui n'adhèrent pas forcément à sa politique et de loin, ils étaient 84% à être convaincus qu'il irait jusqu'au bout. Donc, il a quand même une capacité de conviction du travail qu'il va faire. Parce que, en effet, c'est l'idée que c'est le début de la transformation. Il y avait les ordonnances sur le travail et la SNCF. Et la SNCF, pourquoi a-t-il réussi ? Parce que la SNCF, les cheminots, leur grève, etc., avaient une mauvaise opinion, enfin, une mauvaise cote dans l'opinion française.
Alors, au début, pas au début, véritablement.
Oui, mais enfin, elle s'est quand même très nettement dégradée.
Alors, on va continuer à en parler, justement, de ces réformes et de cette manière, ou pas, si la contestation sociale peut exister en France sous l'ère Macron. L'info à 20h50, Stéphane Milhomme.
D'une partie de la Bretagne à la Normandie et du nord de la Bourgogne au Grand Est, Météo France maintient sa vigilance orange face aux orages pour 17 départements. Une vigilance valable jusqu'à demain matin 6h. La Société Générale va payer plus d'1 milliard d'euros pour régler deux litiges, 250 millions rien qu'en France, pour des soupçons de transactions illicites avec le fonds souverain libyen. Si l'accord est accepté demain par le parquet national financier, le reste de cette somme versé aux États-Unis dans le cadre d'un litige relatif cette fois au taux interbancaire Libor. La direction de Carrefour n'a pas pris en compte une offre de reprise de 152 magasins de l'enseigne Dia. C'est une information France Info. Le groupe annonce aujourd'hui le sauvetage de seulement 29 supermarchés. C'est trop peu pour les syndicats, d'autant que l'offre de reprise des 152 enseignes formulée en février dernier par un cadre de Carrefour et des investisseurs aurait concerné 1300 à 1500 salariés.
L'organisation État islamique revendique l'attentat en Afghanistan. Il a fait au moins 7 morts et 18 blessés à Kaboul. Cette attaque suicide visait ce matin un rassemblement de dignitaires religieux. Une heure auparavant, il venait de proclamer une fatwa contre le terrorisme. Et puis le squelette de dinosaure âgé de 150 millions d'années d'une espèce inconnue a été adjugé à près de 2 millions d'euros aux enchères à Paris aujourd'hui. L'acheteur français reste anonyme. Il promet qu'il sera visible et exposé en France. Le fossile a été découvert dans le Wyoming, aux États-Unis.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Demain, le Sénat devrait voter pour la réforme de la SNCF alors que le 13e jour de grève vient de se terminer. Il n'aura pas fait changer d'avis les sénateurs. Robin Rivaton, la méthode finalement de ce gouvernement en fixant les lignes rouges dès le départ, des lignes rouges non négociables, c'est celle-là qui fait ses preuves, parce qu'on entend beaucoup les syndicats dire oh, on en a marre de négocier puisque dès le début c'est écrit et qu'en fait après on négocie pour rien.
Oui, alors, mais vous avez souligné l'inverse tout à l'heure, ouais. C'est-à-dire que c'était aussi une capacité à pouvoir justement être très souple sur les objectifs de la réforme. Et bon, pour avoir un peu étudié quelles sont les clés de la réforme et la façon de mieux la faire, l'idée à chaque fois, c'est de ne pas se bloquer sur un objectif ou sur une ligne rouge, et plutôt de montrer le sens et le sens de cette réforme. Ou alors de plutôt pointer des corporatismes, de dire que le changement va être fait avec des gagnants et des perdants, puisque c'est le principe même du changement, mais que la majorité des gagnants sera supérieure au nombre des perdants. Et c'est ce qu'ils ont fait sur la SNCF, c'est ce qu'ils ont fait à d'autres égards. Mais les objectifs sont quand même assez flous, ils ne sont pas fixés, même s'il y a des lignes rouges, mais ils sont dès le début. L'idée, c'est vraiment de pouvoir montrer le sens de la dynamique, est-ce que ça va pouvoir changer ou transformer. Encore une fois, ça ne préjuge pas des résultats de la transformation. En tout cas, ils arrivent à mener des chantiers que d'autres gouvernements ont eu beaucoup de mal à débloquer ou sur lesquels, c'est pas tellement qu'ils n'avaient pas la même volonté de réforme. Plusieurs gouvernements ont voulu changer ces choses-là, mais ils ont tout simplement fait demi-tour face à des risques de contestation. Et à l'inverse, je prends juste cet exemple là rapidement, mais la réforme des retraites qui a été une grosse réforme importante, il y a eu des contestations énormes au début de la réforme des retraites en 2010. Et puis au final, elles se sont peu à peu étiolées et c'est une réforme qui est passée quand même en dépit d'une forte opposition.
Et là, on voit tout de même qu'ils prennent un peu plus de temps pour la retraite. Là, on voit par rapport même à la réforme de la SNCF, on sent que ça va être plus long.
Il y avait aussi beaucoup de flou sur la proposition, là, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, sur la proposition de la réforme des retraites. Elle n'était qu'une réforme des retraites qui n'était que sur le format. Donc, on prétendait passer de la réforme actuelle à la réforme à points, mais aucun paramètre, ce qu'on appelle la réforme paramétrique, c'est-à-dire les changements qui vont permettre notamment l'indemnisation, n'avait été évoqué lors de la campagne.
Pour Yann Michel, quand vous voyez justement les Français, pour vous, ils attendent de voir aujourd'hui.
Non, d'abord, je voudrais dire une chose sur la mobilisation. Elle ne sert pas à rien quand les gens se mettent en mouvement. Le rachat de la dette, c'était pas au départ. Enfin, le rachat de la dette de la SNCF, c'était pas écrit au départ que le gouvernement il l'accepterait.
Ouais, c'est ça.
C'était pas écrit. L'Allemagne l'avait fait. Et je rappelle même que les premières déclarations de Édouard Philippe, c'était plutôt de fermer la porte à cette hypothèse.
Il n'en parlait pas au début, d'ailleurs.
C'est Emmanuel Macron qui était revenu et qui peut-être, à ce moment-là, a dû tenir compte un tout petit peu de la mobilisation. Alors, après, est-ce que les Français attendent? Je pense qu'ils la craignent, mais parce que souvent, on appréhende la réforme des retraites. Pour le moment, elle ne fait pas gagner grand-chose. C'est plutôt un détricotage de droits acquis. J'ai absolument aucune idée de ce que veut faire le gouvernement, donc je ne vais pas pérorer là-dessus. On verra bien.
Mais est-ce que quand on dit les Français sont prêts pour le changement, est-ce que d'après vous, c'est ça?
Ça veut rien dire.
Est-ce que ça veut dire quelque chose?
Non, voilà. Ça dépend dans quel sens. Il n'est pas normal, je pense que c'est ça qui crée le grand trouble démocratique, que dans une société, dans nos sociétés, qui produisent autant de progrès technologiques, scientifiques, médicaux, susceptibles d'être tournés vers le bien commun, on explique aux gens que ça va être plus difficile qu'avant. Car c'est ça qu'on leur explique, malgré le sourire et la dent qui brille de la modernité de notre président. Il y a quand même quelque chose d'insupportable chez une partie de la population. Je dis pas qu'effectivement il y a des gagnants et des perdants. Et c'est un problème d'ailleurs de jouer les uns contre les autres. Et ça lui coûtera cher, à mon avis, à la fin, au président de la République s'il continue sur cette voie-là et sur cette stratégie-là. Mais ce qui est sûr, c'est que, au jour d'aujourd'hui, les conditions de travail ont changé, l'atomisation du monde du travail, les allers-retours entre et les alternances entre des périodes de chômage et des périodes de boulot, qu'on n'occupe plus de la même façon. qu'avant. Tout ça percute des réalités, des identités professionnelles. Et pour le moment, la réforme des retraites, c'est comme d'autres réformes, comme la réforme de l'audiovisuel public et comme d'autres, du comptable, des économies. C'est ça qui est présenté. Faire des efforts. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de perspective qui est donnée. On ne tire pas la société vers le haut. Pour l'instant, on lui dit qu'il n'y a qu'une seule politique possible. D'une certaine façon, il n'est pas très original. C'est très vieux monde, tout ça. Schröder voulait faire ça. Thatcher avait fait ça. Sarkozy et Raffarin, et d'une certaine façon, Hollande aussi. Bon, il n'innove pas beaucoup dans le domaine.
Donc finalement, il y a une certaine continuité dans la 5e République. Voilà, c'est ça. François Orcival, pour vous, c'est ça ou pas ? Est-ce qu'il y a un cap pour Emmanuel Macron ? Il y a un souffle, il y a quelque chose ?
Forcément.
Bien sûr,
c'est l'attente des résultats.
Résultats. Quand à l'instant, on vient de le comparer, par exemple, à des gens comme Margaret Thatcher, Nicolas Sarkozy.
Parce qu'à chaque fois, Margaret Thatcher, ça fait allusion à sa résistance aux mineurs comme la résistance aux cheminots. Et bien au-delà, parce que on a vu que tout ça était aussi un conflit politique. C'est le conflit politique qui a échoué. Quant à regarder Nicolas Sarkozy, je pense qu'il en a tiré les leçons aussi pour ce qui concerne la réforme des retraites à venir, c'est sûr.
Allez, en tout cas, on aura l'occasion bien sûr d'y revenir demain pour parler le vote au Sénat qui aura lieu donc demain après-midi de SNCF. Allez, les informés de France Info, ça doit se terminer. Merci beaucoup pour Yann Monchalli d'être passé ce soir aux informés de France Info. Merci Robin Rivaton. La une de Ouest France, Stéphane Vernet demain.
La réforme de l'audiovisuel public.
Ah bah voilà, ça tombe bien. Donald Trump.
Voilà.
Très bien, voilà. Allez, il est temps pour nous d'accueillir Jean-François Aquili. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Pour Tout est politique.
Bon, nous reviendrons sur l'enquête du parquet national financier concernant Alexis Kohler, mais aussi sur Accor et Air France, les migrants et la réforme de l'audiovisuel public, bien sûr. Avec nos invités, Adrien Taquet de La République En Marche, Stéphane Peu du Parti Communiste Français, Jordan Bardella du Rassemblement, on dit comme ça, national, et Gilles Bornstein de France Info.
Bien sûr, allez, tout est politique, c'est dans quelques minutes sur France Info.